Alors la bibliothèque En Vadrouille poursuit les rencontres en ce 11 juin dans les allées du marché de la poésie. Et nous sommes non loin du stand 404 sur un banc installé ici dans le marché pour un petit temps d'entretien avec Claire Pollan. Bonjour.
Bonjour.
Donc l'idée de ces petits moments d'échange, petits échos cueillis dans le salon, c'est de présenter divers éditeurs et donc peut-être dire un mot donc, sur votre maison fondée, si je ne dis pas de bêtises, en 96, qui est focalisée essentiellement sur l'écrit autobiographique. Mais comme vous êtes la fondatrice et l'éditrice, j'aimerais que, et ça me paraît légitime, que vous en disiez quelques mots sur un petit peu, expliquer comment est venue cette idée de, et ce catalogue, comment il s'est constitué progressivement.
Alors moi j'ai commencé à travailler dans l'édition en 1985, il y a longtemps, et tout de suite en proposant une collection aux éditions Ramsay où j'étais avec Paul Fournel, une collection d'écrits autobiographiques qui s'appelait Pour Mémoire. Et après je suis passée aux éditions Verdier quand Ramsay s'est cassé la figure, puis aux éditions Segers, puis Verdier, et puis un jour je me suis dit ben allez je vais voler de mes propres ailes et j'en suis très contente. Donc depuis 1996, je publie sous mon propre nom, dans ma propre maison d'édition, des journaux intimes et des correspondances littéraires et des mémoires d'écrivains du XXe siècle, morts en général, et proches du milieu de la NRF ou pas. Parce que sur le milieu de la NRF, du fait que mon grand-père voilà. était directeur de la revue pendant des années, j'ai beaucoup de documentation.
Vous avez des documents à disposition voilà, et qui ont peut-être favorisé certains projets.
Absolument.
Alors justement, peut-être l'occasion aussi, puisque là on n'est pas dans votre stand, mais vous m'avez fait parvenir des très belles cartes postales qui présentent certains de vos titres. Alors peut-être évoquer celui-ci, parce que vous me disiez que c'était certainement un des titres les plus prometteurs et puis ceux qui a fait connaître la maison, donc l'édition des... autour de Mireille Havé, mais peut-être est-ce que vous voulez, on va dire, profiter de ce petit temps d'entretien, même si c'est pas forcément faisable de résumer un tel catalogue en quelques minutes, mais sur un ou deux titres dont vous voudriez peut-être profiter d'avoir ce temps d'échange pour les faire découvrir.
Oui, alors moi c'est plutôt sur trois femmes que j'aimerais un peu focaliser la chose. La première femme dont j'ai publié le journal, c'était Catherine Pozzi, qui a été l'amie de Paul Valéry, mais qui a surtout été une poétesse publiée dans la NRF, qui a publié quelques poèmes qu'elle a vraiment contrôlés jusqu'à la fin, et qui est morte en 1934 d'une tuberculose, donc vraiment avant terme.
Je crois que je ne suis pas certain, mais qu'il y a un très beau livre de Dominique Bonnat sur cette relation de Valéry avec cette femme.
Oui, elle a écrit un livre sur Paul Valéry dans lequel elle parle beaucoup de Catherine Pozzi. Et Catherine Pozzi était un personnage assez excessif, très exigeant, mais très intelligente, qui avait fait beaucoup d'études, qui avait passé son bac très tard. Et qui avait dès sa plus jeune enfance battu en brèche les manières d'éduquer les jeunes filles dans les sociétés bourgeoises. Donc elle avait voulu faire des études et des études vraiment poussées en grec, etc. Ce qui fait qu'elle a tenu, quand elle était jeune fille, mais aussi quand elle était femme, mariée, elle a été la femme d'Édouard Bourdet, un grand homme de théâtre des années 30-40. Elle a tenu un journal intime, qui était un journal intime vraiment d'une très grande beauté stylistique et puis d'une très forte exigence intellectuelle et morale. Et elle a beaucoup appris de choses à Paul Valéry, beaucoup appris de choses aussi avec Paul Valéry, et leur liaison qui a duré 8 ans a été très importante pour les deux. Voilà, et alors la deuxième femme dont il faut que je parle, c'est Mireille Havé. Alors elle est née en 1898 et elle est morte en 1932. Donc on est vraiment dans les mêmes périodes. Et elle, c'était une jeune fille qui, très tôt, pendant la guerre de 14, du fait que ses amis garçons étaient tous au front ou engagés, enfin elle avait des amis un peu plus vieux qu'elle, s'est intéressée aux jeunes filles et est devenue homosexuelle pendant la guerre de 14. Je crois que c'est le cas de beaucoup de jeunes femmes. Une fois que leurs maris et amants sont revenus dans les rails, mais qui pendant la guerre ont mené une vie un peu insouciante, pendant que les amis se faisaient tuer dans les tranchées. Enfin bref, cette jeune fille, Mireille Havé, elle a tenu aussi un journal de jeunes filles et puis un journal de femmes adultes, qui est très intéressant parce qu'elle y parle de son homosexualité absolument sans détour, mais aussi de sa consommation de drogue. elle a écrit après la Première Guerre mondiale parce qu'elle était très déprimée et elle avait beaucoup souffert de la mort de ses amis. Elle a commencé à prendre de l'opium avec la veuve de Roland Garros, puis des drogues plus fortes et elle en est finalement morte en 32.
Alors si vous me permettez, puisque dans la carte que vous avez éditée pour faire connaître ce titre, il y a une reproduction assez conséquente de quelques lignes tirées de son journal, donc je vais juste le lire pour profiter aussi pour illustrer un petit peu sa langue et donner à entendre sa langue. Je me contente de lire la carte. Aller au devant, rompre, ne rien admettre, détruire et rejeter tout ce qui, même de très loin, menace une seconde l'indépendance. Voici mes lois. Ce n'est pas exactement une politique de conciliation, c'est exactement une révolte. Je ne mangerai pas de votre pain, je serai abracadabrante jusqu'au bout. Voilà. Effectivement, un très bel extrait qui donne, je pense, un petit peu la tonalité
la nature, de sa plume. Tout son journal, extrêmement révolté contre la société. Voilà. Et le troisième journal, d'une autre femme. Je ne publie pas que des journaux de femmes.
Oui,
c'est
oui,
vraiment
oui.
Ceux-là qui m'intéressent le plus, avec lesquels je me sens plus en résonance. C'est le journal d'Hélène Hopneau, dont j'ai déjà publié deux tomes. Hélène Hopneau était la femme d'un diplomate qui s'appelait Henri Hopneau. Et là aussi, on est dans les mêmes années. Le premier tome couvrait les années 1918 à 1933. Et celui-ci, le dernier, que j'ai publié 36 à 40. Et je vais publier encore 40-45, donc pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Étant femme de diplomate, elle avait accès à beaucoup au-dessous de la politique européenne et même internationale. Et comme elle avait une très haute conscience de sa position, elle ne disait rien, elle n'intervenait pas, mais elle notait tout dans un journal. Et c'est ce journal qu'elle a relu sur le tard, et qu'elle a dactylographié elle-même, et qu'on publie maintenant avec un appareil critique qui permet de comprendre ce qu'elle savait et ce qu'elle a noté. Et en plus, c'est assez littéraire, et elle a croisé beaucoup d'écrivains, de musiciens. Ses meilleurs amis étaient Paul Claudel, Darius Milhaud, Jean Cocteau,
oui, toute une avant-garde
Robert Dima, Jacob, etc. Oui. Et donc c'est vraiment un journal, un témoin de son temps extraordinaire.
Donc ben, merci bien pour ces quelques focus.
Ça peut donner envie.
Voilà, c'est ça l'idée. Et puis là, pour, on va dire, compléter la présentation de vos activités, donc vous êtes également la co-organisatrice d'une rencontre littéraire, oui, dont la troisième édition se tiendra donc cet été, en octobre.
5 ou 8 octobre.
Avec plusieurs invités, donc les rencontres littéraires de Porto. Et donc là, c'est un événement peut-être aussi donner un petit peu la tonalité. Là, si je découvre, je me contente de lire les invités de cette édition. Il y aura des noms, justement, des écrivains qui sont...
Il y a Artus Bertrand qui va présenter un film, Claude Evenot, Olivier Rollin et Eric Fay qui vont parler de leur œuvre littéraire et dire comment ils à Porcro, comment ils ont découvert Porcro, et puis Jean-Pierre Vesco qui est un naturaliste et qui lui va nous guider dans les sentiers de Porcro et nous expliquer toutes les plantes qu'on va rencontrer. Et c'est pour faire renaître à Porcro une activité culturelle, en effet dans cette île qui est au large de Toulon, qui fait partie des îles d'Or avec Porquerolles et les îles du Levant, l'île du Levant. Il y a eu une très grande activité intellectuelle dans les années 20-30. Et tous les membres de la NRF se retrouvaient dans un fort abandonné, le fort de la Vigie, pendant tout l'été. Et ils travaillaient là à leurs œuvres et ils travaillaient là aussi au sommaire de la Nouvelle Revue Française.
Donc c'est effectivement une occasion, un double événement à la fois contemporain, mais aussi une relecture,
voilà,
un rappel historique, ouais, et d'un territoire qui a nourri d'illustres auteurs. Très bien, bah écoutez Claire, merci d'avoir pris ce petit temps comme ça à la volée pour découvrir un petit peu plus vos éditions. Merci infiniment.
Merci beaucoup.